Vous écoutez
RMC.
Bon réveil à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Vous êtes sur RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Thibaut Texier. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il projetait de s'en prendre à Donald Trump et à son administration. On en sait plus ce matin sur le profil de l'homme qui a tenté de faire irruption à un gala samedi soir à Washington aux États-Unis. Soupçonné d'avoir tué Ivan Colonna en prison il y a 4 ans, Franck Elongabé sera jugé pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Et Paul Sexas, encore brillant hier, le cycliste français, deuxième de Liège, Bastogne-Liège, tenant tête au vainqueur Tadej Pogacar, un duel qu'on aimerait bien revoir sur les routes du Tour cet été.
Il voulait s'en prendre aux membres de l'administration Trump.
Le suspect interpellé samedi soir à Washington après avoir tenté de s'introduire à une soirée de gala en présence de Donald Trump. Il va être présenté à la justice aujourd'hui. Un Californien de 31 ans qui aurait envoyé un manifeste. Son contenu, Romain Houg, a été dévoilé par la presse américaine et nous permet, Romain, d'en savoir plus sur son profil.
Oui, c'est un document que Cole Thomas Allen a envoyé à sa famille peu de temps avant de passer à l'acte. Un manifeste donc dans lequel l'assaillant présumé et qui se surnomme lui-même la amical, assassin fédéral, insulte Donald Trump. Il critique sa politique migratoire, mentionne les morts civiles dans les guerres où sont impliqués les États-Unis. Il évoque aussi l'affaire Epstein, un manifeste qu'a pu lire Donald Trump. Il en parle dans une interview accordée hier soir à la chaîne américaine Fox News.
Il a beaucoup de haine dans son cœur depuis très longtemps. Quand vous lisez son manifeste, il est très très anti-chrétien. C'est quelqu'un de très dérangé. Il a de gros problèmes dans sa vie.
Quant à la préparation de cette attaque, le suspect aurait d'abord traversé le pays en train afin d'éviter les contrôles aux aéroports. Il était un client de l'hôtel Hilton où avait lieu le gala. Il avait une chambre dans laquelle il a pu introduire de nombreuses armes. Au moment de l'attaque, l'homme était équipé, selon la police, de 2 armes à feu et de nombreux couteaux. Enfin, le suspect ironise même sur la sécurité aux abords de l'établissement et la facilité avec laquelle il a pu accéder à l'hôtel, raillant, je cite, le niveau d'incompétence insensée des autorités.
Et c'est dans ce contexte que le roi Charles III va entamer aujourd'hui une visite de 4 jours aux États-Unis qui célèbre le 250e anniversaire de son indépendance. La guerre au Moyen-Orient et ses conséquences sur l'économie, preuve en est ce chiffre de l'UMI que vous révèle RMC ce matin de la fréquentation en baisse de 20% dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Parmi les causes évoquées, le coût des déplacements liés à la hausse du prix des carburants, c'était l'une des raisons de la colère des ambulanciers le 8 avril dernier, un plein de plus en plus cher, goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'une profession sous tension. Ils ont rendez-vous au ministère de la Santé aujourd'hui. Rachel Sadodine.
Jusqu'à 500 km, c'est la distance que parcourt chaque jour Mickaël au volant de son ambulance. Il a vu sa facture de carburant s'envoler.
Nous, on ne peut pas se mettre en télétravail, c'est impossible. Il faut bien faire le transport des patients, donc on ne peut pas économiser du carburant, c'est pas possible.
Une hausse des prix des carburants impossible à répercuter sur les tarifs qui crée un trou dans la trésorerie du patron. Pierre-Yves Vanstavel, gérant de la société Cray Ambulance.
On réduit pas nos marges, on n'a déjà pas de marge. Depuis le début de l'année, on a perdu au moins 150 000 euros de chiffre d'affaires.
Vous êtes déjà bénéficiaire d'une aide sur le carburant.
Oui, 70 euros d'aide par véhicule, c'est juste se moquer du monde.
Alors même que la grille tarifaire en place est déjà trop basse, selon le secrétaire général du principal syndicat d'ambulanciers.
La garde aujourd'hui, telle qu'elle est faite par les ambulanciers, est rémunérée 64 euros de l'heure par l'État. Je dois mettre à disposition un véhicule équipé de professionnels de santé, plus le matériel qui va à bord.
Un tarif fixé par l'assurance maladie qui ne lui permet pas de payer ses employés au-dessus du SMIC. Au ministère de la Santé aujourd'hui, il réclamera donc une revalorisation des tarifications des ambulanciers.
On n'a pas fini de parler des conséquences de cette guerre en Iran et de cette crise sur le pétrole. On a évoqué les restaurateurs, les vols annulés aussi, c'est une info qu'RMC vous donné hier pour Transavia. Et là, les ambulanciers, vous attendez quoi de ce rendez-vous avec le gouvernement? Venez nous le dire au 32-16 ce matin.
4 ans après la mort d'Ivan Colonna à la prison d'Arles, Franck Elongabé sera jugé pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Un procès aux assises ordonné par 2 juges d'instruction. Ils évoquent, Julie Brault, la volonté de tuer sans équivoque du détenu radicalisé soupçonné d'avoir mortellement agressé le militant corse.
Oui, c'est après avoir blasphémé contre le prophète qu'Ivan Colonna aurait déclenché la colère de Franck Elongabé, un détenu radicalisé, décrit comme particulièrement dangereux et instable. Il est accusé d'avoir violemment tabassé le militant corse avant de l'étouffer pendant plusieurs minutes. Le suspect n'est en revanche pas renvoyé pour association de malfaiteurs, lui qui a pourtant assuré avoir agi suite à un acte commandité par les services français. Une thèse également soutenue par les avocats d'Ivan Colonna qui se sont indignés hier que l'hypothèse retenue soit celle d'un acte solitaire, malgré de nombreuses zones d'ombre, disent-ils, comme la maintenance des caméras de vidéosurveillance de la prison, pile le jour de l'agression du militant corse.
Le personnel pénitentiaire mobilisé ce lundi à l'appel de plusieurs syndicats plante à bloquer les prisons depuis 6 heures ce matin afin de dénoncer le manque de personnel mais aussi la surpopulation carcérale.
Un bras de fer à présent et franchement, venez arbitrer ce bras de fer au 32-16 ce matin. On vous attend, un bras de fer engagé par le maire de Saint-Ouen contre l'installation d'un fast-food Master Poulet.
L'enseigne a récemment ouvert l'un de ses restaurants dans cette commune de Seine-Saint-Denis contre l'avis de l'édile socialiste Karim Bouamran, bien décidé à lutter contre la malbouffe et la multiplication de ce genre d'enseignes largement relayées sur les réseaux sociaux. L'affaire qui a pris une tournure juridique divise les habitants de la ville. Antonin Audion l'a constaté sur place pour RMC.
Une bataille à coups de banderoles sur la devanture.
Karim, l'argent public n'est pas au service de ton ego.
Et d'une dizaine de grands pots de fleurs d'1m50.
Mis en place pour gêner l'accès à la clientèle.
La clientèle d'un restaurant de poulet à emporter. Le maire veut les interdire dans le centre de sa commune, soutenu par certains habitants.
C'est bien ce que le maire a fait là pour pouvoir ouvrir un commerce. Si c'est une boulangerie, c'est encore mieux. Mais l'odeur de la fouture, ça sent fort la fouture.
On aimerait peut-être avoir effectivement d'autres commerces plutôt que ce genre de fast-food. Ouais, moi, je suis d'accord.
Mais pour d'autres comme Nicolas, ce type de commerce correspond à l'ADN de la ville.
Je vis à Saint-Ouen depuis 20 ans. Il y a ce type d'enseigne tous les 100 mètres dans Saint-Ouen. Il y en a plein à l'avenue, là. Il y en a partout. Pourquoi on leur fait un procès, eux ?
Entre le maire et Master Poulet, Jean Cat a choisi son camp. Question de prix.
Le riz au poulet, il est à 3,50. Avec un blanc de poulet, là, je viens de payer 7 euros. J'ai un repas complet. Il n'y a rien de moins cher aujourd'hui et de plus accessible pour nous qui sommes des jeunes, on est en alternance. Voilà, on n'a pas forcément les moyens.
La France Insoumise s'est mêlée à la polémique avec le député Éric Coquerel. Il accuse la mairie de favoriser l'installation de restaurants à destination des plus aisés en oubliant toute une partie de la population.
L'OM ralenti par Nice dans sa course à la Ligue des Champions. Un but partout hier soir au Vélodrome. Les Marseillais, 6e ce matin, comptent 4 points de retard sur Lyon et Lille, 3e et 4e.
Et cette question, ce matin, c'est la question à 7h07. Paul Sexas va-t-il participer au prochain Tour de France ?
Le cycliste laisse planer le doute, ses fans en rêvent. Le peloton en parle au lendemain d'un nouveau coup d'éclat. 2e hier sur Liège-Bastogne-Liège à seulement 19 ans. Sur le podium entre le vainqueur Pogacar et Evenepoel. Des adversaires dithyrambiques au sujet du jeune cycliste français qui a encore marqué les esprits, Kevin Morand.
Oui, Paul Sexas a tout donné, seul capable de suivre Tadej Pogacar dans la côte de la Redoute, où le Slovène avait construit ses précédentes victoires. Sur ce monument, le Français, deuxième à l'arrivée.
Je me suis senti vraiment bien, j'étais vraiment à bloc en haut, donc je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de m'accrocher jusqu'à la fin. Et voilà, il était juste plus fort à la fin, je pouvais pas suivre, il manquait un petit peu. La deuxième sur un monument, c'est super.
Même si Sexas a cédé dans la dernière montée, sa performance marque une nouvelle fois les spectateurs belges, comme Antoine et Brice.
Franchement, très impressionnant, en plus à 19 ans, il a encore une grosse marge de progrès.
Pouvoir déjà les loindre, les forts mentalement et tout ça, il est déjà fort, il est hors norme.
Devant Remco Evenepoel hier, Paul Sexas envoie un message fort qui fait saliver le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme.
C'est une course qui nous projette déjà peut-être un peu vers le mois de juillet. D'une manière générale, c'est exceptionnel de voir un garçon comme ça à 19 ans capable de résister dans un des monuments du cyclisme. C'est vrai qu'il ouvre une nouvelle page. Son arrivée est vertigineuse sur le sport français.
Tadej Pogacar pense d'ailleurs retrouver Sexas sur le Tour de France cet été, qui lui répond.
Franchement, je serais heureux de le revoir, mais voilà, on verra. Comment on fait.
Sexas annoncera son programme estival après quelques jours de vacances bien mérités.
Et puis un autre Français brillant, Victor Wembanyama, auteur de 21 points pour son retour face à Portland. Avec San Antonio, les Spurs mènent 3-1 et pourraient se qualifier dès demain pour le prochain tour des playoffs en NBA.
Merci beaucoup Thibaut Texer, c'était le journal de 7h et ce matin on a donné la parole aux restaurateurs dans le morning, notamment avec Élise Dangean qui est de retour. Bonjour Élise.
Salut Mathieu.
On a parlé des restaurateurs qui tirent la langue depuis le début de la crise en Iran.
Oui.
En gros, les Français font le plein de carburant, ils peuvent aller au resto, mais ils n'ont plus les moyens de se le payer le resto, une fois qu'ils ont payé le plein. Et Valérie voulait réagir depuis les Alpes-Maritimes. Soyez la bienvenue Valérie sur RMC, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise.
Vous n'êtes pas restauratrice vous ?
Non, pas du tout, je suis consommatrice on va dire.
Et vous avez arrêté, réduit le restaurant ?
J'ai réduit, puis c'est ce que je disais au standard. Ouais. Ce qui m'a fait un petit peu réagir, c'est votre intervenant qui a parlé tout à l'heure, le monsieur qui était représentant de l'UMI.
Oui, c'est le nom des métiers et des industries de l'hôtellerie.
Voilà,
Franck Chomès, c'est ça ?
C'est ça.
Les restaurateurs vont trouver une solution, peut-être notamment en diminuant les quantités dans les assiettes. Alors là, moi, je suis sortie de mes gonds parce que écoutez, je trouve déjà que les quantités ont largement diminué et les prix ont largement augmenté. Donc, à ce rythme-là, moi, le resto, de toute manière, c'est simple. J'ai une brasserie de village, deux ou trois petites brasseries autour et un bon gastro. Et je m'en tiens là, je ne vais plus dans les autres restaurants parce qu'à chaque fois...
C'est de la, ce qu'on a appelé dans l'industrie la shrinkflation, quoi. Vous dites réduire la portion dans l'assiette et maintenir le prix, voire l'augmenter. Vous vous sentez quoi, arnaqué, Valérie ? Je vais vous poser la question en d'autres termes. Évidemment, tout le monde peut se sentir arnaqué quand on le présente comme ça. Mais ces restaurateurs-là, s'il s'agit juste de courber les chines un petit peu le temps que la crise passe.
Mathieu, moi, ce que je reproche aussi là-dedans, c'est que les restaurateurs, souvent, ils veulent faire beaucoup de plats. Moi, j'irai plus facilement chez des restaurateurs qui font vraiment eux-mêmes leur cuisine, parce que ça aussi, on le cherche. Mais mettons, et vous avez trois entrées, trois plats, trois desserts, et basta. Vous avez des cartes qui n'en finissent pas, et souvent avec des produits qui sont achetés, qui sont déjà préparés.
Ah oui, non, mais c'est là, voilà. Vous mélangez plusieurs débats, mais qui vont avec la restauration, mais qui vont aussi avec cette forme de désamour dont vous parliez, Valérie. Vous avez choisi quelques restos, ce sont les vôtres, et vous n'allez plus trop ailleurs. Venez répondre à Valérie ce matin, est-ce que la solution, c'est de baisser les portions dans les plats ? C'est vrai que présenté comme ça, ça paraît fâcheux pour les gourmands que nous sommes, éventuellement, Valérie. Mais en tout cas, vous venez nous dire si ça peut aider les restaurateurs à passer le printemps et l'été. On ne sait pas combien de temps va durer cette crise des carburants. Mais merci, Valérie, d'avoir composé le 32-16 ce matin. Il est 7h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les marges des distributeurs de carburant, toujours, on en parle toujours, ont-elles explosé depuis le début du conflit au Moyen-Orient ? Un document de Bercy accuse, les professionnels enragent. On pose la question dans un instant à Francis Pousse, président national des stations-service chez Mobilience. Nous ne sommes pas des profiteurs de crise, c'est son parti pris. Mais alors à qui profite la crise ? Qui s'enrichit ? Je lui pose la question aussi. Restez bien sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h14 sur RMC, RMC Story. Un document de travail de Bercy commandé par le Premier ministre accuse les distributeurs de carburant d'avoir fortement augmenté leur marge brute depuis le début du conflit au Moyen-Orient, de 30 à 40 centimes, jusqu'à 50 centimes par litre pour certains. Une nouvelle réunion est prévue cette semaine à Bercy. Bonjour Francis Pousse.
Bonjour.
Vous êtes président national des stations-service chez Mobilience. Vous représentez les pompistes aujourd'hui, faut le dire clairement. Nous ne sommes pas des profiteurs de crise, c'est votre parti pris. Les distributeurs accusés de voir leur marge exploser. Vous contestez ces chiffres ?
Ah oui, tout à fait. Comme vous le dites, c'est un document de travail. Je pense que si Bercy ou un autre ministère avait voulu communiquer d'une manière officielle, ça serait appelé communiqué de presse ou quelque chose d'officiel.
Ouais.
Donc, ce document de travail correspond à une première partie de travail que l'on est en train de faire avec Bercy, mais sur lequel on n'est absolument pas d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que, et lundi matin, et jeudi après-midi, on s'est encore revu avec Bercy, pour affiner la méthode de calcul qui n'est, sur ce document de travail, certainement pas la bonne.
Alors, l'enjeu, c'est de calculer comment on calcule vos marges, Francis Pousse. Sur quoi porte le désaccord ?
Ben justement, sur la base de calcul de ces marges, alors je vais essayer d'être pas trop technique, mais en fait, le gouvernement prend la cotation, la fameuse cotation Rotterdam de J-2 à J-7,
ouais.
Ce qui fait donc une moyenne. Mais pendant ce temps-là, la station, elle n'a pas un tarif qui est moyenné. Elle a un tarif au jour le jour en fonction du cours du prix du jour.
Mmh.
Et donc, vous pouvez très bien acheter à 100 alors que la moyenne est descendue à 80. Si, de l'autre côté, vous faites une étude de ce que j'appelle moi des coûts de distribution et pas des marges, forcément, vous avez des décalages qui sont très importants.
Alors, c'est Francis, tout le travail. Vous dites nos marges ne sont pas passées de 30 à 40 centimes, voire 50 pour certains ?
Je dis que sur la base de ce document de travail, on ne peut rien affirmer du tout, puisque justement, les éléments de calcul, on est juste en train de les discuter. Je rappelle qu'on ne parle pas de marge, mais de coût de distribution, et c'est surtout pas 30, que ce soit 30, 40, 50, c'est surtout pas ce que se met dans la poche un pompiste, puisque ces coûts de distribution sont le facteur de sortie de raffinerie jusqu'à la station-service. Je m'explique. Vous avez sortie de raffinerie jusqu'aux 200 dépôts français, plus de le transport de ce carburant par train, par pipeline ou par même 1, 2, 3.
C'est ça qui est dans cette marge.
Voilà. Après, il faut payer les 200 dépôts français et payer à nouveau le transport jusqu'à la station-service. C'est ça que représentent les 30 centimes. Donc,
ce qu'on appelle la marge brute, et ça a augmenté.
Ça aurait augmenté, mais encore, je suis très surpris, puisque jeudi, on a eu plutôt un satisfecit de la part des ministres sur justement la tenue de cette marge. Comme quoi, ce document n'est qu'un document de travail et il est absolument contraire à ce qu'on est en train de discuter.
Mais admettons que c'est qu'un document de travail, mais pardonnez-moi, Francis Pousse, on est le 27 avril, ça fait 2 mois la guerre. Ça a augmenté ou pas les frais que vous, dont vous parliez pour la marge brute ?
Non, la marge brute n'a pas augmenté. Il y a à la marge, c'est le cas de le dire, par contre, des augmentations de frais de transport, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Hein, le gasoil est plus cher, donc les camions qui nous approvisionnent, ça coûte un peu plus cher. Mais globalement, d'ailleurs, la marge globale évoquée est de 30 à 33 centimes, qui correspond tout à fait à ce qu'il se passait avant la guerre.
Francis Pousse, le document de Bercy citerait Eni, Esso, Avia, des enseignes Carrefour, Intermarché. Vous dites, nous ne sommes pas des profiteurs de crise. Mais alors, si c'est pas vous, qui, Francis Pousse, qui s'en met plus dans les poches ces dernières semaines?
Vous avez remarqué que c'est d'abord le cours international, le fameux Brent, puis derrière la cotation Rotterdam qui ont beaucoup augmenté. Donc, c'est quelque part la faute, un, à la guerre, et deux, à l'ensemble des traders, éléments financiers qui jouent malheureusement sur la hausse du baril. Et c'est pareil sur d'autres matières premières, on en parle des fois, mais le blé, etc. Et malheureusement, ce sont la plupart du temps, ces financiers qui aident à faire augmenter le prix du Brent.
Mais bon, le problème, Francis Pousse, et vous le connaissez très bien puisque vous venez régulièrement sur RMC, c'est qu'on a tous le sentiment que quand ça augmente très vite et que quand ça descend, ça met un peu plus de temps. Le baril, là, il est au-delà de $106, il est remonté. On n'a peut-être pas eu la baisse qu'on attendait, ça a pourtant baissé un peu, mais peut-être pas autant qu'espéré. $106 aujourd'hui, ça veut dire que concrètement, on va rester dans des tarifs de crise encore quelques semaines.
Malheureusement, oui, on a une très grande volatilité. Moi, j'ai jamais vu ça en 12 ans de présidence de cette branche carburant au sein de Mobilience. C'est toujours le jour. Donc, la semaine dernière, on a eu une belle détente sur le prix du gasoil. Malheureusement, depuis, ça réaugmente. Et bien entendu, ça va se voir.
Une belle détente, ça reste à 2,15, hein, Francis Pousse. Hein. Il était à 1,70 avant la guerre.
Oui, non, mais attendez, avant la guerre, on n'était pas du tout au-delà de $100, hein, on était aux alentours de 70, avec un gasoil à Rotterdam qui était aux alentours de $700 la tonne. Là, on parle de $1,200 la tonne, vous voyez la différence. Et malheureusement, ça se retrouve à la pompe. Et les prix que nous recevons tous les matins dépendent de ces cotations internationales, sur lesquelles nous, on rajoute notre marge habituelle, et certainement pas en l'augmentant, puisque la France est un pays très concurrentiel en termes de prix de carburant, 65% de part de marché pour les grandes surfaces. Et on ne peut pas se permettre de décaler. Déjà qu'on en vend moins quand c'est cher, imaginez ce que ça serait si c'était encore plus cher.
Francis Pousse, merci beaucoup, président national des stations-service chez Mobilience. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin. Les prix à la pompe, ça, vous les constatez, vous les commentez au 32-16, vous n'hésitez pas. Mais surtout, vous nous dites ce matin si vous avez renoncé à des loisirs, restaurants par exemple, ou même à des projets. On parle des vacances, 7h20 sur RMC, RMC Story. Dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
L'historien d'Apolline Matin. Arthur, Donald Trump exfiltré lors de la fusillade samedi soir à Washington. Eh bien, cette fusillade, elle a eu lieu au même endroit que la tentative d'assassinat de Ronald Reagan en 1981.
Et oui, son auteur, c'était John Hinckley Jr. Et il voulait tuer le président pour impressionner une star de Hollywood.
Et puis, le 8h30, le face-à-face sur ce sujet, justement, avec Christian Proutot, fondateur du GIGN. Et attention, dans 5 minutes, Arnaud Demange vient pirater l'interview. Vous ne bougez pas, on revient dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 sur RMC et RMC Story. Le suspect ne coopère pas activement. C'est ce qu'a déclaré hier le procureur général par intérim des États-Unis à propos de la fusillade qui a eu lieu samedi soir à Washington et au cours de laquelle Donald Trump a donc été exfiltré, Arthur Chevalier.
Et oui, c'était pendant le dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche. La tradition veut que le président y assiste, donc Donald Trump était là avec sa femme et une partie de son administration. Et alors que le dîner se déroulait normalement, un homme de 31 ans a forcé un barrage de sécurité. Il a ensuite ouvert le feu sur la police avant d'être maîtrisé dans la zone de contrôle, donc en fait à l'extérieur du dîner. Quand les coups de pistolet ont retenti, le président, sa femme et le vice-président ont été exfiltrés.
Et cette scène de chaos ne s'est pas déroulée n'importe où.
Et non, puisque la cérémonie avait lieu à l'hôtel Hilton de Washington, donc dans la capitale américaine. Et c'est un hasard du destin incroyable, Mathieu, puisque dans ce même lieu, il y a 45 ans, on avait déjà tenté d'assassiner un président américain. Ce président, c'était le républicain Ronald Reagan. Alors à l'époque, il venait tout juste d'être élu 2 mois auparavant.
Mais alors qu'est-ce qui s'était passé ?
Alors nous sommes le 30 mars 1980. Le président Reagan donne une conférence à l'hôtel Hilton de Washington, donc celui où dînait Donald Trump samedi soir. Il donnait une conférence devant une puissante fédération syndicale. L'événement se termine. Ronald Reagan sort de l'hôtel et avant de regagner sa voiture, il prend un petit peu de temps pour saluer la foule. Et à ce moment-là, un homme de 25 ans qui s'appelait John Hinckley Jr. sort un revolver et là tout va très vite. Il tire plusieurs coups de feu et une balle rebondit sur la limousine présidentielle pour venir se loger dans la poitrine de Reagan. Mathieu, le président est touché.
Je ne savais même pas qu'il avait été touché. Il a survécu ?
Et il a survécu. Absolument, il a survécu. Opéré en urgence, survécu. 12 jours plus tard, Reagan sortait de l'hôpital en bonne santé. Alors évidemment, c'était un événement tragique, mais qui a aussi rendu très populaire Reagan auprès des Américains. Mais dans cette affaire, le plus intéressant, c'est en fait l'homme qui a ouvert le feu. Naturellement, la police l'a interrogé, lui a demandé pourquoi il avait fait ça. Et alors là, Mathieu, tenez-vous bien, il a répondu qu'il avait essayé de tuer le président pour impressionner l'actrice Jodie Foster, dont il était tombé amoureux en voyant le film Taxi Driver.
Donc on peut dire, je crois, que c'était un déséquilibré.
C'est en tout cas ce que dira la justice. Il est inculpé pour tentative d'assassinat sur le président américain et les juges l'ont finalement déclaré irresponsable de ses actes en raison d'une psychose aiguë. Du coup, il a été interné en hôpital psychiatrique, un hôpital dont il est sorti libre en 2022 à l'âge de 67 ans. À l'heure où on parle, il est donc libre et vivant.
Merci Arthur. Merci Chevalier. L'histoire, l'actualité avec vous pour écouter vos chroniques. Toutes les chroniques d'Arthur Chevalier, direct sur le podcast, sur l'application RMC, bien entendu. Il est 7h25.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud Demanche.
Bonjour Mathieu Béliard.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV, l'invité du face-à-face, c'est Christian Proutot, fondateur du GIGN.
Oui, fondateur du GIGN, fondateur du groupe de sécurité de la présidence de la République. Ouais. Dirigeant d'une cellule antiterroriste, le gars, il a même formé Jean-Claude Van Damme. Je l'ai croisé dans les couloirs, je n'ai même pas osé tousser. Si vous le voyez, Mathieu, pas de mouvement brusque. T'éternues, tu te retrouves plaqué au sol avec une clé de bras. C'est pas un type qu'on a envie de contrarier, Christian Proutot. Hein, lui, quand il va à la crèmerie, il récupère le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et un grand sourire du crémier qui fait « Ne me tuez pas, soyez gentil !» Bref, c'est la personne idéale pour analyser ses coups de feu lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche. C'était un gala avec plein de journalistes où se trouvait Donald Trump. Et ce sera une analyse brillante, l'analyse de Christian Proutot. Voilà.
Voilà.
Forcément brillante.
Fin de la chronique.
Voilà. Hein, non, parce que de toute façon, vu le bonhomme, on va pas s'amuser à contester une analyse de Christian Proutot. Voilà. C'est à nous à se retrouver en garde à vue dans un local qui est répertorié nulle part. Christian Proutot a raison. Voilà.
Qu'on se le dise.
Et s'il a tort, c'est qu'il a raison d'avoir tort. Voilà. Alors, l'agresseur a été arrêté avant de pouvoir tirer sur le président américain. Ce naze. Non mais il l'a même pas eu, Christian Proutot, il l'aurait eu Trump, et il aurait réussi à le buter, et avec un cure-dent, et après avoir énucléé tout le service de sécurité avec une cuillère à melon. Alors, je dis ça, j'exagère en fait, hein. Bon, parce qu'il a fondé le service de protection des présidents dans les années 80, en attendant Mitterrand est quand même mort, hein, voilà, bravo Christian. Hollande c'était autre chose, la plus grosse menace c'était le frigo, il y avait les gars de la sécurité qui devaient lui barrer la route jusqu'au frigo pour empêcher le cholestérol de s'en prendre à notre président. Trump aurait pu ne pas être là parce qu'il est notoirement en froid avec les journalistes, d'habitude il vient jamais à ce gala, ça a dû le rendre fou d'ailleurs cette histoire. Mais il y a un zinzin avec plein de fusils qui aurait pu flinguer des dizaines de journalistes et vous l'arrêtez avant qu'il puisse le faire, vous êtes débile ou quoi? Rendons quand même hommage à l'agent du Secret Service qui s'est fait trouer la peau par une balle, hein, pour Donald Trump, il y en a eu un. Tu te rends compte, tu te prends un trou de balle pour en protéger un autre, c'est relou quand même. Sors de ce corps, Raymond DeVos. Vous avez vu, c'est Victor Hugo ce matin qui a fait les textes. C'est bossé. Heureusement qu'il y a eu un week-end pour travailler tout ça. Alors, le suspect est un trentenaire californien de 30 ans, prof. Probablement un peu fou, hein. Tu sens qu'il a perdu l'esprit. Normalement, les profs nerveux aux États-Unis se mettent pas dans le crâne d'aller tirer sur un président. Ils se contentent de leurs élèves. Bon, c'est là qu'on voit que ce gars-là, il était pas net, quoi. Allez, rendez-vous avec Christian Proutot à 8h30. Soyez à l'heure.
Si vous Christian ne l'êtes Proutot, pas, qui est le nouveau Chuck Norris.
Voilà, il viendra vous chercher pour écouter son interview.
C'est le face à face à 8h30. On vous retrouve à 8h20. Et juste après, il y aura le Nicolas Canteloup aussi à 8h50 sur RMC, bien entendu. 7h28, on revient tout de suite pour la météo et les infos. Il est 7h30.
RMC.
Apolline Matin.
Bienvenue sur RMC, c'est l'heure du journal de Thomas Becker. Bonjour Thomas.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. À la une, cette info RMC, plus de 70% des gérants dans l'hôtellerie-restauration constatent une baisse de la fréquentation depuis le début de la guerre en Iran. Plus de 24 heures après l'intrusion d'un homme armé lors d'un gala en présence de Donald Trump, beaucoup de questions autour du dispositif de sécurité. L'assaillant a été arrêté à quelques mètres seulement de la salle de réception. Et puis J-1 avant la demi-finale de la Ligue des Champions PSG-Bayern. RMC est à Munich, où les supporters n'ont Dieu que pour le français Michael Olise.
Conséquence directe de la guerre au Moyen-Orient, l'hôtellerie-restauration constate une baisse de sa clientèle.
Les trois quarts des gérants du secteur confirment cette tendance selon une étude de l'UMI que RMC vous révèle ce matin. Parmi les causes avancées, la hausse du coût des déplacements qui freine les envies de sortie des Français. C'est le cas à Toulouse, où les terrasses ne font pas le plein malgré le soleil, Jean-Wilfried Forquès.
Il y a tout juste un an, Jean-Charles Carrère, le gérant de cette guinguette installée en bord de Garonne, accueillait 5 à 600 clients par jour.
On faisait pratiquement 70% de plus de chiffres. En ce moment, on n'est même pas à 100, 120 personnes par jour. Ça, c'est une moyenne. C'est très, très inquiétant.
Et il ne fait plus appel qu'à 5 salariés au lieu de 11 au printemps dernier. Car les clients de sa guinguette dépensent peu, comme le remarque Latifa, qui travaille à ses côtés.
Le ticket moyen était à 30 euros, et là, en fait, il est à 10 euros. Et on a constaté que les gens prennent une salade à deux.
Et dans toute la région, l'hébergement n'est pas épargné, remarque Brice Sanac, président de l'Union des métiers de l'hôtellerie dans les Pyrénées-Orientales.
On n'est pas sur des gros week-ends, comme on a pu avoir les années précédentes, quand le beau temps est au rendez-vous, parce qu'il l'est. On a beaucoup d'espoir, week-end du 1er mai, week-end du 8 mai, week-end de l'Ascension, ça va être des week-end tests.
En Occitanie, en un an, la baisse du chiffre d'affaires peut aller jusqu'à 60% pour certains professionnels.
Autre conséquence de la guerre, la compagnie française Transavia annonce supprimer 2% de ses vols sur les mois de mai et juin. Information RMC ce matin, décision liée à la flambée des prix du kérosène.
Et c'est la question qu'on vous pose ce matin. Est-ce que vous avez renoncé récemment au restaurant, peut-être réduit l'addition? Est-ce que vous changez vos plans pour les vacances? Les conséquences directes de la crise au Moyen-Orient avec vous au 3216 ce matin et sur le WhatsApp RMC au 0612 424 424. On part aux États-Unis à présent avec cette question. Évidemment, Thomas, comment un homme armé d'un fusil a-t-il pu se retrouver à quelques mètres seulement du président américain ?
Question qui fait aussi la une de la presse américaine alors que la scène s'est produite dans un lieu fermé. Fusil à la main, un homme d'une trentaine d'années qui avait l'intention de cibler le président américain a été stoppé in extremis. Amélie Courtet, pour l'expert que vous avez interrogé, aucun doute, il y a eu plusieurs failles de sécurité.
Sur un événement aussi sensible, en présence du président et du vice-président des États-Unis.
Que fait un individu si puissamment armé au sein de cet hôtel sans qu'il passe dans des détecteurs de métaux et qu'on l'interpelle de suite?
Pour l'expert en sécurité Pascal Bito Panelli, il y a forcément eu des failles. D'après la police, le tireur armé d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de couteau était un client de l'hôtel où était organisé le gala.
À partir de J-2 sur ces événements, on doit valider l'ensemble des personnes qui sont dans l'hôtel, autant au niveau du personnel que des invités. C'est ce qui semble très étonnant.
Autre interrogation, après les premiers coups de feu, le vice-président J.D. Vance s'est évacué par le Secret Service, la protection rapprochée du président avant Donald Trump.
Techniquement, sur l'évacuation, elle est confuse et un peu tardive parce qu'on voit réagir le Secret Service après même que des invités soient cachés sous la table.
L'essentiel, tempère Pascal Bito Panelli, a été assuré.
Le président n'est pas blessé et en sécurité.
Mais la collaboration entre les différents services de sécurité doit être perfectionnée selon lui.
Le ministre des Affaires étrangères iranien est arrivé à Saint-Pétersbourg. Il va s'entretenir avec Vladimir Poutine. D'après l'ambassadeur iranien en Russie, les deux pays présentent un front uni face à la domination occidentale. Pas de confirmation, en revanche, de nouvelles discussions directes entre l'Iran et les États-Unis.
Juste après ce journal, Charles Aloncle est l'invité d'RMC. C'est le désormais célèbre rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public.
Et aujourd'hui, 30 députés se réunissent à l'Assemblée nationale. Au programme, un vote pour décider si le rapport sera rendu public ou non. Son contenu a déjà en partie fuité dans les médias, dont une partie des propositions choc du rapporteur Sonia Gobry.
Oui, pour économiser 1 milliard d'euros, Charles Alonque le préconise notamment de supprimer la chaîne Jeunesse France 4, de fusionner France 5 avec France 2. Le député UDR suggère aussi de revenir, comme avant 2013, à une nomination des dirigeants de l'audiovisuel public par le chef de l'État. Mais ces préconisations pourraient ne jamais être rendues publiques, du moins officiellement. Les parlementaires sont divisés. Pour certains, impossible de mettre à ce document le sceau de l'Assemblée nationale. Un contenu à la rhétorique complotiste, un torrent de boue, juge l'une d'eux. Le rapporteur a été d'une grande mauvaise fois, ça a été un simulacre, ajoute une autre. Mais certains députés plaident, eux, pour la publication du rapport, sans forcément adhérer aux propositions, pour éviter que l'élucidiste Charles Alonque ne se victimise et crie à la censure.
Sonia Gobry, service politique d'RMC. Emmanuel Macron se rend en Ariège aujourd'hui. Déplacement centré sur la réindustrialisation du pays. Il enchaînera par une visite d'État en Andorre. Une façon d'honorer son titre de coprince de ce petit État situé à la frontière espagnole.
On passe au foot avec un gros coup d'arrêt pour l'OM.
Tenu en échec face à Nice au Vélodrome hier soir. Un partout. Les Marseillais sont à 4 points de la place qualificative en Ligue des Champions. Coupe d'Europe qui reprend ses droits demain soir. Énorme choc avant la demi-finale PSG-Bayern Munich, ce sera à 21h. Les Allemands débarquent au Parc des Princes avec un atout dans leur 11 de départ. Il est français, il s'appelle Michael Olise. Valentin Jamin, l'international français, a conquis les cœurs à Munich.
Oui, dans ce bar où se rassemblent les supporters, les soirs de match, des écharpes, des photos, des drapeaux sur les murs et des fans avec leurs maillots. Certains l'ont floqué, Michael Olise.
He's even the best player in the world.
Un des meilleurs joueurs du monde pour Richard.
In his form now.
Dans cette forme, il est le numéro 1. Il est déterminant dans toutes les compétitions. Son dernier but contre le Real Madrid était parfait. Le football a besoin de gars spéciaux comme lui.
Décisif en moyenne une fois par match, le Français est indispensable et éblouit Clément, franco-allemand qui porte son écharpe rouge.
Je peux même pas dire à quel point il est important pour nous. Le danger qu'il crée, j'ai pas vu ça beaucoup.
L'an dernier, l'attaquant a été élu meilleur joueur du club par les fans. Dans les boutiques du Bayern, sur les publicités, il est mis en avant malgré son attitude parfois nonchalante, explique Christian Falk, qui anime le podcast Bayern Insider.
Il parle rarement aux médias, mais est gentil avec les supporters. Il n'est pas leader avec les mots, mais sur le terrain et dans le vestiaire, il est blagueur. C'est lui qui met la musique.
Et en Allemagne, certains le mettent même parmi les candidats au Ballon d'Or.
Et les courses, c'est à Bordeaux, Le Bouscat.
Oui, départ à 13h55, le favori de la Dream Team RMC, c'est le 5, Grande Passe Seine, et l'outsider est le 10, Sir Crater.
Merci beaucoup Thomas Becker, c'était le journal, 7h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et avec vous au 32-16, ce fast-food de la Discorde. On est à Saint-Ouen, au nord de Paris. Une enseigne Master Poulet fraîchement installée. Problème, le maire, Karim Bouamran, n'en veut pas. Il avance l'argument de la malbouffe contre l'installation de ce Master Poulet à Saint-Ouen. Christophe est en ligne avec nous depuis l'Hérault. Bonjour Christophe.
Bonjour Mathieu.
Soyez le bienvenu. Vous êtes vigneron et éleveur. Vous êtes dans la volaille ou pas du tout, Christophe?
Non, moi je suis dans le cochon.
Dans le cochon, d'accord. Ces enseignes de fast-food qui s'installent, vous êtes sensible à l'argument du maire de Saint-Ouen?
Je suis surtout sensible au monde agricole français qui subit la concurrence déloyale de ces produits. Parce que j'aimerais savoir de la destination, enfin, d'où viennent ces animaux, dans quelles conditions ils sont élevés, dans quelles conditions les salariés travaillent, dans quelles conditions ces animaux sont abattus. Voilà, j'aimerais savoir tout ça.
Après, vraisemblablement, la vente de poulet étranger à bas prix, je vous suis, hein, Christophe, on a parlé beaucoup du poulet ukrainien ces dernières années, c'est légal. Hein.
Ah non, mais que ce soit légal, bien entendu, mais pourquoi est-ce que nous, on nous impose des normes qu'on n'applique pas aux produits qui traversent la frontière?
Et Christophe, c'est très sensé, en tout cas sur la viande que l'on consomme ici, les normes
appliquées à l'étranger. Mais c'est sur la viande, c'est sur les légumes, c'est sur les fruits.
Bah, je devine bien, c'est l'éleveur qui parle, et peut-être un peu moins le viticulteur. Mais l'éleveur, en tout cas, il est confronté justement à ces importations de l'étranger. On a eu pas mal de messages sur ce sujet-là, Christophe, sur cette enseigne Master Poulet qui veut s'installer à Saint-Ouen.
Et l'incompréhension de Christian qui nous dit qu'il adore Karim Bouamran, mais qu'il ne comprend pas pourquoi cibler Master Poulet et pas le Burger King, par exemple, qui est juste en face et qui doit faire bien pire, sinon pareil en matière de matière grasse et de malbouffe. On a Ludo, lui, qui nous dit ces mères qui se croient chez eux, sans déconner, ça ressemble à une vengeance étatique. Ludo, qui est moins fan de cette idée.
Alors Christophe, mais d'un mot, c'est le rôle du maire d'empêcher l'installation d'une enseigne?
Ben, le maire, c'est le premier agent de police de sa commune, donc commençons par eux, oui.
Oui, il peut choisir la nature des produits qui sont vendus dans sa commune. À vos yeux, ça vous choque pas?
Ben, s'il fait pas d'arbitrage, en fait. Il faut que ce soit tout, toute la malbouffe qui soit censurée.
Mais je pense que le message de Christophe sur RMC Story, on voyait en arrière-plan un Burger King juste en face. Merci Christophe. Merci, c'est le message de Christian, pardon. Vous, c'est Christophe, depuis l'Hérault ce matin, au 32-16. Merci de nous avoir appelés en direct ce matin sur RMC. Il est 7h40. Faut-il publier le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public ou faut-il carrément l'enterrer, l'envoyer aux oubliettes de l'Assemblée? C'est ce qui se décide aujourd'hui. Aujourd'hui, épilogue de 6 mois de travaux, 238 auditions, des fuites dès vendredi. On en parle dans un instant avec mon invité, c'est le rapporteur de ce texte, l'auteur du rapport, Charles Alonque, député UDR de l'Hérault. A tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin,
Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous à l'écoute d'RMC. Il est 7h41. Après 6 mois de travaux, la commission d'enquête parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public touche à sa fin. Les 30 députés de cette commission se réunissent tout à l'heure pour décider de publier ou de ne pas publier le rapport rédigé par notre invité ce matin. Bonjour Charles Alonque.
Bonjour.
Merci. Vous êtes député. Merci d'être venu ce matin. C'était pas évident, vous allez comprendre, je vais l'expliquer à nos auditeurs. Vous êtes député UDR de l'Hérault, rapporteur de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel. Je dis merci d'avoir accepté notre invitation parce que normalement, entre la rédaction, la lecture du rapport et le vote qui doit se tenir aujourd'hui, normalement vous êtes tenu au silence, sauf qu'il y a des fuites depuis vendredi.
Alors, je pourrais pas vous dire ce qu'il y a dans le rapport, contrairement d'ailleurs à un certain nombre de députés de gauche et macronistes qui, depuis 3 jours à l'envi, sortent un certain nombre de recommandations. Matinent aussi ça de beaucoup de fausses informations, de fake news, dans le seul but de discréditer le rapport. Vous voyez, la mécanique est assez simple. Des députés sortent des fausses informations, alimentent un climat qui justifie un vote défavorable cet après-midi. Et s'il y a vote contre cet après-midi, le rapport ne sera pas publié. Et alors, on ne pourra pas
vous
dire ce qu'il y avait vraiment
pour pouvoir
dans
voter
le rapport.
Contre et ne pas connaître ce qu'il y avait dedans. Alors, de ce qui est ressorti, vous préconisez 1 milliard d'économies. Je ne sais pas si vous allez me dire oui ou non.
Je ne peux pas vous parler du fond du rapport. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été très choqué de voir beaucoup de fausses informations circuler qui préparent.
Les fusions de chaînes, par exemple, ou suppression de chaînes.
Par exemple, on m'expliquait que je voulais la fin du Tour de France, la fin des Six Nations, la fin de Roland Garros sur le service public. Et je dis tout l'inverse dans mon rapport.
Donc, j'ai envie de rétablir du budget sport de France.
J'ai envie de rétablir un certain nombre de vérités.
C'est quoi tout l'inverse, Charles Alonque?
Tout l'inverse, c'est que dans mon rapport, par exemple, j'explique, et si je vous le dis, c'est aussi pour démentir un certain nombre de fake news, j'explique que le Tour de France, Roland Garros et Six Nations sont des monuments quasiment nationaux qui font l'exception sportive et culturelle, qu'il faut les préserver sur le service public. Je vous donnais un autre exemple, c'est par exemple, depuis plusieurs jours, dans tous les médias, des médias complaisants, on explique que je voudrais que le président de la République soit le seul décideur pour la nomination des présidents d'entreprises publiques comme Radio France et France Télévisions. Je dis d'une certaine façon une chose très différente. J'explique qu'il faut plus de démocratie, qu'il faut que l'Assemblée et le Sénat se saisissent aussi de ces décisions. Donc, encore une fois, de ce que je peux lire dans les médias depuis 3 jours...
Mais quand même, c'est une proposition du président ou pas? Parce que j'avais prévu la question à la
fin. Mais c'est extrêmement important que l'Assemblée nationale et le Sénat se prononcent dans le cadre d'un vote. Donc, vous voyez, c'est très différent d'une décision autoritaire et verticale du seul président de la République.
Ce serait quoi? Ce serait nomination par le président de la République et vote de validation par le...
Je contreviendrai au règlement, à la différence de beaucoup de députés qui ont fait fuiter des recommandations. Ce que je peux vous dire, c'est ce que vous lisez à certains égards dans la presse depuis 3 jours, il y a beaucoup de fausses informations pour discréditer ce rapport et préparer aussi des justifications pour voter contre. Et s'il y a vote contre, personne ne pourra révéler ce qu'il y avait ou non dans le rapport. Donc c'est une mécanique bien huilée qui est là aussi pour préparer la censure.
Vous êtes en train de faire, et c'est ce que vous avez pu dire déjà ce week-end, vous fustigez des pressions de députés de gauche et macronistes, la diffusion de fake news pour discréditer ce rapport et justifier donc un vote défavorable. Le président de la commission d'enquête parlementaire appelle lui à la plus grande retenue et il vous vise directement. Il regrette vos interventions médiatiques, votre participation samedi à une réunion à l'Assemblée consacrée à France Télé. Personne n'a respecté les règles du jeu, Charles Alonque.
Non, pour vous dire, c'était un colloque interne organisé par Jean-Philippe Tanguy où il n'y a eu aucune révélation. Donc un colloque qui était destiné simplement à quelques adhérents d'un mouvement politique où il n'y a eu aucune révélation qui a été faite. Donc tout ça, en fait, toutes les polémiques, toutes les justifications seront bonnes pour expliquer cet après-midi pourquoi certains députés ont voté contre la publication du rapport. Et Moi, je ne comprends pas pourquoi le président de la commission d'enquête, macroniste, explique, j'ai cru lire dans les colonnes du Figaro hier, qu'ils seront d'accord pour publier simplement les recommandations du rapport, mais pas les constats, pas les états de dérive, de défaillance, de dysfonctionnement, alors que les deux sont importants. J'ai rédigé un rapport de près de 400 pages, je trouve ça scandaleux. Alors, on commence à faire monter un chantage pour dire, il n'y a que les recommandations qui pourront être publiées, par exemple, mais pas les constats, les dysfonctionnements. Et je m'étonne même, et je finirai là, pardon, je m'étonne même que la publication d'un rapport soit soumis à un vote. On est quand même en démocratie. Ces recommandations sont là aussi pour donner de la matière à réflexion et de la matière
c'est
à débat.
Le fonctionnement des commissions, même
c'est
si c'est
le fonctionnement,
très,
mais on peut s'interroger.
C'est rarissime qu'un rapport ne soit pas publié.
Il y a beaucoup de Français qui me disent mais pourquoi la seule publication d'un rapport serait soumise à un débat ? On a envie de savoir aussi ce que vous proposez.
Jeu, quand vous décidez de cette commission, enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est la règle du jeu.
Ah non, mais c'est la
changer,
règle du jeu.
On peut estimer qu'il faut la changer, mais pour l'instant.
Mais il n'y a eu qu'un seul précédent dans l'histoire de l'Assemblée où le vote, la publication d'un rapport n'a pas été admise, donc c'est extrêmement rare. Et de voir une telle pression pour expliquer qu'il faudrait censurer à la fois le rapport et l'ensemble des travaux, je vous avoue que ça me dépasse. Ce sont des gens qui ont un problème avec la démocratie, avec le pluralisme.
Je voudrais que vous puissiez leur répondre, parce qu'il y a plusieurs députés qui sont cités, alors parfois nommément, parfois c'est anonyme, mais je vous mets quelques citations. On parle d'un contenu à la rhétorique complotiste, un torrent de boue en parlant de votre rapport, la pagination est mal faite, je passe sur les critiques de forme.
C'est drôle.
C'est la probité de nos institutions qui est en jeu. Ce sont des citations de députés. D'ailleurs, c'est même pas le rapport, le problème, c'est vous. Le rapporteur a été, je cite, d'une grande mauvaise foi, ça a été un simulacre. On ne peut pas poursuivre ce type de dévoiement d'un outil parlementaire comme celui-là.
Ah mais je trouve ça très drôle parce qu'effectivement, alors il s'attaquerait à la numérotation des pages, aux marges sur le document, à la pagination,
ça,
aux sous-titres qui ne sont pas soulignés. Et après, bon, il s'attaque à moi. Mais comme ils se sont attaqués avant même la création de cette commission d'enquête, il y a eu un front massif des députés de gauche et macronistes qui se sont opposés à la création de cette commission d'enquête, alors que dans l'histoire, dans la coutume de l'Assemblée, chaque groupe d'opposition chaque année dispose d'une commission d'enquête du thème de leur choix. Donc ce sont des gens qui ont un problème fondamental avec la démocratie, avec le pluralisme, qui jusqu'au bout feront tout pour essayer de censurer la vérité et aussi faire
vous
preuve de la plus grande opacité.
Vous pensez qu'aujourd'hui ils vont voter pour que ce rapport ne soit pas publié?
Moi je fais confiance, quels que soient les bords politiques et un sens de la responsabilité des députés. Je pense qu'ils voient que massivement les Français sont pour la publication de ce rapport et quelque chose me dit qu'à la fin, on arrivera à trouver un terrain d'entente. Moi, je ne me soumettrai pas à ce chantage qui consiste à supprimer des pans entiers de ce rapport.
Je précise juste pour nos auditeurs, c'est que le problème, c'est que les auditeurs, les députés de la commission ne se prononcent pas sur pour ou contre la publication. Ils se prononcent dans ce vote sur le fond du rapport. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de cette commission et des travaux de ces 6 mois d'audition. Ce qui est ressorti, vu de l'extérieur, honnêtement, c'est parfois un grand cirque. Des auditions mouvementées, Xavier Niel, Nagui, Vincent Bolloré, Patrick Cohen, quelques extraits.
Merci pour l'invitation, mais je ne suis pas un clown.
Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là ?
Je soupçonne Nagui de dérives scandaleuses par centaines de millions depuis des années.
Que l'espionnage déguisé en journalisme est appelé à prospérer sur les antennes du groupe Bolloré.
Les 4 milliards, c'est beaucoup à un moment où la France est quand même en difficulté.
Pardon, il y a un président de cette commission enquête, c'est moi, d'accord ?
Tout ça pour quoi ? Est-ce que vous avez voulu vous faire France Télé ?
Vous savez, demander des comptes à l'audiovisuel public, ce n'est pas régler ses comptes avec l'audiovisuel public. Il va falloir qu'un certain nombre de personnes s'habituent aussi à rendre compte, à répondre aux questions pour essayer d'expliquer comment ils utilisent l'argent des Français. L'audiovisuel public, c'est 4 milliards d'euros par an. C'est pas anodin. C'est la moitié du budget du ministère de la Culture. Et je n'ai jamais dit que je souhaitais la privatisation.
Vous êtes
bien
au contraire. C'est pour ça que
j'ai expliqué. Au contraire, j'ai expliqué depuis le premier jour de cette commission d'enquête que j'étais là pour mettre en lumière les dérives, les dysfonctionnements qui frappent depuis des années l'audiovisuel public pour mieux sauver ces missions précieuses. Mais vous voyez, il y a eu beaucoup de campagnes de calomnie, de diffamation, organisées notamment par le président macroniste de cette commission d'enquête, qui, de façon diffamatoire, m'a rangé dans le camp des ardents défenseurs de la privatisation. Ce que j'ai toujours dénoncé.
Vous dites, ce n'est pas le
Moi,
cas.
Je pense que mettre la poussière sous le tapis, mettre le couvercle sur ces travaux, c'est condamner, c'est mieux condamner définitivement ces entreprises qui sont quand même au bord du précipice financier. Donc ces travaux ont un sens aussi pour sauver l'émission de l'audiovisuel.
Un dernier mot, au-delà des questions de forme qu'on a pu poser, selon Le Monde, la direction des affaires institutionnelles du groupe d'Arnaud Lagardère, groupe qui est contrôlé par Vincent Bolloré qu'on vient d'entendre, a envoyé des listes de questions à des députés avant leurs échanges avec des auditionnés. Vous avez reconnu, en expliquant que c'est complètement normal, une forme de lobbying avant qu'on travaille un texte de loi ou sur le cadre d'une commission. Est-ce que vous avez reçu ces questions suggérées ?
Alors, j'ai reçu, comme le président macroniste, ces questions, comme un certain nombre de députés. Et vous savez, c'est vieux comme l'Assemblée. Le lobbying, les affaires publiques, c'est vieux comme l'Assemblée. Dès qu'on vote un texte en période budgétaire, par exemple, vous avez des syndicats, des représentants de salariés, des institutions, des organisations qui envoient sur votre boîte publique mail de l'Assemblée un certain nombre de contributions.
Est-ce que pendant ces 6 mois d'audition, vous échangiez, vous, à titre personnel, en privé avec Vincent Bolloré?
Non, absolument pas. Je ne l'ai jamais rencontré. D'ailleurs, il l'a dit sous serment, je ne le connais pas. Et si j'avais été un émissaire de Monsieur Bolloré, je ne me serais pas intéressé à la deuxième société de production à bénéficier des contrats de France Télévisions, Banijé. Je ne me serais pas intéressé au cas de Monsieur Nagui, qui est co-actionnaire de Banijé, à Takis Candilis, qui a fait une navette entre France Télévisions et Banijé, parce que Monsieur Bolloré est actionnaire de Banijé. Donc, si j'avais été un émissaire de Monsieur Bolloré, je ne me serais pas intéressé au cas parfois problématique de cette deuxième société de production à bénéficier des contrats de France Télévisions.
Charles Alloncle, on verra ce que feront les 30 députés de cette commission d'enquête parlementaire, publieront pas ce rapport. C'est à 14h30 la réunion tout à l'heure. Je ne sais pas si elle sera houleuse comme l'étaient les commissions en public. Charles Alloncle, député UDR et rapporteur de la commission sur l'audiovisuel public.
Merci à vous.
Merci d'être venu répondre à nos questions ce matin. Il est 7h51. Et dans un instant, la voix de droite d'RMC, c'est vous, Louis Sarkozy. Louis, on va rester à l'Assemblée, puisque la France Insoumise participera à la réunion sur le projet de loi contre l'antisémitisme.
Oui, je ne suis pas convaincu par la présence de pompiers pyromanes à cette réunion. Peut-être on peut inviter l'ambassade iranienne pour un colloque sur les droits des femmes la semaine prochaine.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53 et tiens, on va reparler d'audiovisuel public.
Oui.
On vient d'en parler, mais ça ne fait pas uniquement l'objet de rapports parlementaires. Élise, l'audiovisuel se raconte aussi désormais en chanson.
Une chanson signée Patrick Sébastien. Elle ouvre le deuxième volet de son album Olé Osé, sorti vendredi, et elle s'intitule Delphine.
Bon ben là, j'ai une chanson un peu spéciale, mais je sais pas si je vais la faire.
Alors, chanson qu'il a hésité à sortir, dédiée à la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, avec laquelle l'ancien animateur de la 2 est en conflit ouvert depuis son éviction en 2019. Et on peut pas dire qu'il y soit allé de main morte. Delphine, si tu avais connu ma pine, on reconnaît la signature de Patrick Sébastien, sauf que ça n'est pas du tout du goût de Delphine Ernotte, qui a annoncé porter plainte contre son ancien salarié pour outrage sexiste et sexuel. Patrick Sébastien qui sera l'invité des Grandes Gueules ce matin sur RMC. On verra ce qu'il aura à dire à cette annonce de plainte.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Il est 7h54 sur RMC et RMC Story. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour Mathieu.
La France Insoumise, vous êtes notre voix de droite ce matin comme tous les lundis. Louis, la France Insoumise participera finalement à une réunion parlementaire sur le projet de loi contre l'antisémitisme. Leur présence était jusqu'ici hypothétique, d'autant que le parti s'était opposé à la proposition de loi Yadan, finalement retirée de l'agenda parlementaire il y a quelques jours. Et vous, Louis, pour vous, ce revirement, est-ce qu'il vous convainc ?
Mathieu, la France Insoumise participe à un projet de loi contre l'antisémitisme. La France Insoumise participe à un projet de loi contre l'antisémitisme. On aura décidément tout entendu. Pourquoi ne pas organiser, tant qu'on y est, un colloque sur le droit des femmes avec l'ambassade d'Iran, une conférence sur l'autodétermination des peuples avec Vladimir Poutine?
Ça vous fait réagir, mais au fond, c'est quand même mieux qu'il s'associe à la bataille contre l'antisémitisme à l'Assemblée.
Oui, que cette bataille, ce fléau qu'il participe notamment à propager. Mathieu, soyons parfaitement clairs, la France Insoumise n'est pas juridiquement un parti antisémite. Aucun tribunal ne l'a déclaré tel, mais elle en porte tous les uniformes. Elle en parle la langue. Elle en colle les affiches, elle coche toutes les cases, fait tout comme et tout pour.
C'est une accusation grave. Sur quoi est-ce que vous appuyez, Louis ?
Sur une définition, celle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, adoptée par plus de 30 pays. Cette définition dit en substance, nier le droit du peuple juif à disposer d'un État, prétendre que l'existence d'Israël est en soi un crime, c'est de l'antisémitisme. Critiquer Netanyahou, c'est de la politique. Vouloir effacer Israël de la carte, c'est autre chose.
Mais LFI dit ne critiquer que la politique d'Israël et pas les Juifs directement.
Bien sûr, c'est la phrase magique qu'on entend à longueur de journée. Sauf que la France Insoumise ne critique pas seulement la politique d'Israël, elle conteste sa légitimité même. Ses dirigeants ne demandent pas seulement un cessez-le-feu. Ils vont jusqu'à remettre en cause l'existence même du seul État juif du monde. Étrangement, ces mêmes responsables ne manifestent jamais pour le Ouïghour de Chine, jamais pour les Yéménites massacrés, jamais pour les Tchétchènes. Un seul pays sur près de 200 leur arrache des cris, inspire leur diatribe, provoque leur raillerie. Celui des Juifs, c'est une obsession, et cette obsession a un nom.
Vous avez des exemples concrets ?
J'en ai des pelletés, Mathieu. Février 2026, Jean-Luc Mélenchon, en plein discours, fait mine de buter sur le nom d'Epstein. Ah, vous voulez dire Epstein ? Pardon, ça fait plus russe. Une blague sur la consonance des noms juifs. 80 ans après Vichy. Mars 2025, LFI publie une affiche de Cyril Hanouna, sourcils froncés, nez accentué, rictus haineux. Le juge des référés a écrit que cette image était perçue comme rappelant les affiches antisémites des années 30 et des années 40. Le parti a été condamné. Juin 2024, Mélenchon écrit que l'antisémitisme reste résiduel en France au moment où les actes antisémites explosent. Ça fait beaucoup pour un hasard.
Et les déclarations de Rima Hassan ?
Rima Hassan, c'est le manuel. Avril 2026, en garde à vue pour apologie du terrorisme après un tweet mettant en avant Kozo Okamoto, un terroriste japonais auteur d'un attentat en Israël en 1972. Mai 2025, tweet sur l'Eurovision où elle associe Israël et l'argent. Monnaie, 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 tweet-elle. Tweet une députée européenne, réveillant un cliché vieux de 1000 ans. Avant cela, des insinuations selon lesquelles le CRIF dicterait sa parole aux ministres françaises des Affaires étrangères. Soit, pour ceux qui ne connaissent pas trop leur histoire, la vieille théorie du complot juif mondial, recyclée pour Twitter et par la France insoumise.
Alors, LFI répond que c'est une cabale, qu'on confond critique d'Israël et antisémitisme.
Mais cette confusion, c'est eux qui la cultivent. Ils brandissent l'anticolonialisme pour ne plus avoir à prononcer le mot juif et le mot sionisme pour pouvoir dire ce qu'ils n'osent plus écrire. Vladimir Yankelevitch, le grand philosophe français, l'avait vu déjà en 1971. Il écrivait, je cite, « L'antisionisme est une aubaine inespérée car il nous donne la permission d'être démocratiquement antisémite. »
Alors vous parlez de Vichy, des années 30, de Kéfié, vous n'allez pas un peu loin, Louis ?
Mais Mathieu, les mots ont un sens. L'histoire a une mémoire. La France n'a pas le luxe ici de l'amnésie. N'oublions pas pourquoi ce projet de loi existe. Parce qu'en 2026, en France, l'antisémitisme ne porte plus seulement la chemise brune. Il porte aussi le keffieh et envoie des tweets. Il siège à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Il se revendique républicain et démocratique. Mais au fond, c'est le même depuis toujours. L'antisémitisme est un cancer. Soit on l'excise, soit il nous tue.
Louis Sarkozy, la voix de droite d'RMC le lundi matin. Demain, on retrouvera Cécile Duflo, notre voix de gauche, à la même heure, à la même place. Dans un instant, la météo et le journal de 8h. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.